Je vais faire une présentation du livre d'Esdras. Et je voudrais commencer par lire deux versets qui sont ce que j'ai mis comme verset clé sur la petite fiche que je vais vous donner tout à l'heure. Chapitre 6, donc alors le livre d'Esdras, c'est dans l'Ancien Testament, c'est avant les psaumes, c'est dans la partie des livres historiques de Genèse à Esther, et puis après on a... Voilà. Ça y est, vous avez trouvé dans votre Bible, Esdras, chapitre 6, le verset 16. Les Israélites, les prêtres, les Lévites, le reste des Juifs issus de l'exil, firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Alors quand il mentionne ici la maison de Dieu, il s'agit du temple de Jérusalem. Donc si je vous dis Esdras, vous pensez temple de Jérusalem. Reconstruction du temple de Jérusalem. S'il y a une chose à associer à Esdras, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem après la déportation. Et puis un deuxième texte, plus à la fin du livre d'Esdras, au chapitre 10, au verset 2. Je lis simplement, je ne vais pas lire les noms, mais voici les paroles dites par un certain Shekania, parole prononcée à Esdras. « Nous avons commis un acte d'infidélité envers notre Dieu. Nous avons installé chez nous des femmes étrangères issues des peuples qui habitent le pays. Pourtant, en dépit de cela, il y a un espoir pour Israël. » Et c'est surtout la fin de ce verset qui me semble importante dans la lecture du livre d'Esdras, c'est que malgré le fait qu'ils aient commis un acte d'infidélité envers Dieu, pourtant, il y a un espoir pour Israël. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder comme en ligne de fond quand on lit le livre d'Esdras, c'est l'avenir que Dieu d'accord à son peuple, et puis en parallèle, évidemment, l'espérance qui est la nôtre en tant que chrétien. Voici donc deux versets qui sont, qui retracent en fait les deux parties du livre d'Esdras dont on va parler maintenant. Alors, l'auteur de ce livre, même si ce n'est pas mentionné directement dans le livre d'Esdras, il est fort probable que ce soit Esdras lui-même. On sait qu'Esdras est l'un des personnages principaux du livre, et il est probable que ce soit lui-même qui ait écrit ce livre. C'était un grand prêtre, donc un descendant de Aaron. Mais il était aussi quelqu'un qui connaissait extrêmement bien toutes les Écritures, l'Ancien Testament, la loi de Moïse. C'était un théologien. Son prénom, qui est un prénom araméen, signifie le secours. Et au début du chapitre 7, on a toute sa généalogie. Alors on ne va pas la lire, je vous la laisse découvrir. Et on a aussi deux versets, on va les lire par contre ceux-là, qui décrivent un petit peu qui il est. Au chapitre 7, au verset 6 et au verset 10. Cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Et puis plus loin, au verset 10, « En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. » Donc si le verset 6 nous décrit, nous rappelle donc qu'il était vraiment versé dans la loi de Moïse, ce n'était pas un intellectuel. Le verset 10 nous dit qu'il avait appliqué son cœur, à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et ses règles en Israël. Donc il a étudié, il a mis en pratique et il avait ce désir de communiquer tout ce qu'il avait appris aux autres. Et c'est ce verset-là qu'un de nos enseignants à l'IBG nous avait donné comme mot d'ordre pour quand on a étudié la matière qui s'appelle l'herméneutique, c'est-à-dire la manière dont on peut comprendre le texte biblique, donc l'étude du texte biblique. Pour nous rappeler que c'est pas, qu'il n'y a pas que l'étude qui est importante, et c'est pour ça qu'il nous l'avait donné ce verset, mais c'était aussi le but de l'étude de la parole de Dieu, c'est de mettre en pratique la parole. Alors Esdras, il est non seulement l'auteur de ce livre, mais il est aussi l'auteur du livre qui suit, le livre de Néhémie. Et on va revenir tout à l'heure, je vais revenir tout à l'heure sur le lien qu'il y a entre ces deux livres. Il est peut-être aussi l'auteur des livres des Chroniques. C'est une des hypothèses que certains avancent. Donc il pourrait avoir écrit les Chroniques, Esdras et Néhémie. Et en fait, Esdras et Néhémie, au départ, enfin dans le temps, il y a longtemps, dans la Bible hébraïque, aussi dans la première Bible grecque, les deux livres ne faisaient qu'un seul livre. Ça s'appelait le rouleau. C'était un seul rouleau parce que c'était des parchemins. Et donc Esdras et Néhémie étaient sur le même rouleau. Et on peut voir que même dans la première version en latin, faite par Jérôme au 5e siècle, il les avait séparés, mais il les avait appelés 1 Esdras, 2 Esdras. Voilà. Et puis aujourd'hui, maintenant, dans toutes nos traductions, elles portent le nom du personnage principal, Esdras et Néhémie. Et donc avec le livre d'Esther, qu'on a étudié l'an dernier, ces trois livres-là sont des livres qui concernent la période après l'exil. Ce sont les trois derniers livres historiographiques de l'Ancien Testament. Alors on va regarder un petit peu, j'aime bien vous faire un petit schéma pour vous rappeler les dates. On va regarder ça. Une petite chronologie biblique. Je ne pars pas du début, mais on se souvient qu'on a parlé d'Abraham, qui est le père d'une grande nation, finalement, qui est ce qu'on appelle un patriarche, qui a eu des enfants, qui ont eu des petits-enfants, et puis au bout d'un certain temps, ça a formé un peuple. Ce peuple qui a été amené à sortir d'Égypte, à rentrer dans le pays de Canaan. Ils ont formé une nation qui s'est séparée en deux, le royaume du nord, le royaume du sud, et ensuite il y a eu des gens qui... Donc là je parle de la période assyrienne, où on a vu le royaume du nord s'arrêter, hein, il y a eu invasion, déportation, il n'y avait plus personne au nord. Ensuite il y a eu une autre nation qui a dominé sur la région, ce sont les Babyloniens, et là, ça a été la fin du royaume du Sud, chute de Jérusalem. Ceux qui étudient le livre de Jérémie, le mercredi, on est en plein dans cette période-là, hein, le jugement que Dieu apporte sur son peuple, parce que, justement, comme on a parlé ce matin, il n'a pas choisi les bonnes fondations, il a décidé de ne pas... écouter et suivre Dieu, mais au contraire de se détourner de lui et d'adorer des idoles. Alors ensuite, dans cette période-là, la chute de Jérusalem, donc c'est l'exil à Babylone. Ça veut dire qu'en Israël, il n'y avait pratiquement plus de juifs. Il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus de ville. La ville a été détruite, le temple a été détruit. Et puis ensuite arrivent les Perses. Les Perses qui ont eux-mêmes provoqué la chute de Babylone, qui était considérée pourtant comme une ville imprenable. Et là, ceux qui aiment l'histoire, ils peuvent lire la chute de Babylone. Il y a un certain nombre de récits qui existent. Alors j'ai mentionné un certain nombre ensuite d'empereurs, Cyrus, Cambyses, Darius Ier, Xerxès et Artaxerxès. Et on se rappelle que Esther, elle était la femme de l'empereur Xerxès, ou appelé autrement Assyrius. Voilà. Cyrus, le premier empereur perse, qui, quand il arrive au pouvoir, proclame un édit. Alors, ce décret de Cyrus permettait aux nations qui avaient été déportées de retourner chez elles. Il n'y avait pas que les Juifs, mais les Juifs aussi. Et c'est un décret. Et parce que et ces nations pouvaient aussi devaient même à nouveau relancer ou reprendre le culte de leur dieu. Voilà. C'est une politique complètement différente. Les Babyloniens, ils entraient dans un pays, ils détruisaient tout, ils emmenaient les gens. Les Perses, quand ils conquéraient un pays, ils laissaient les gens là où ils étaient, avec leur religion. Et donc quand ils sont pris Babylone, ben, tous ceux qui avaient été déportés, ils les ont encouragés à retourner chez eux. Donc il y a eu un premier retour d'exil, sous la direction de Zorobabel. Le but de ce groupe qui est revenu, qui était assez important, était de reconstruire le temple. Donc il y a différentes étapes, on va le voir, donc ça concerne le livre d'Esdras, on est en plein dedans, parce que le début du livre d'Esdras démarre par l'édit de Cyrus. Reconstruction de l'autel, puis reconstruction du temple, démarrage. Quand vous lirez le texte, vous verrez qu'il y a un certain nombre de péripéties, qu'ils ont été amenés ensuite à s'arrêter, quelques années plus tard. Pendant 10 ans, il y a eu une interruption des travaux qui se sont repris après. Et ensuite, il y a donc la fin des travaux, la dédicace du temple. Donc entre le premier retour, 538-516, il s'est écoulé une 20aine d'années. Ça, ce sont ce que racontent les 6 premiers chapitres d'Esdras. Et puis ensuite, entre le chapitre 6 et le chapitre 7, il y a une 60aine d'années qui s'écoulent. Et le chapitre 7 démarre avec un deuxième retour d'exilés. Entre-temps, il y a la reine Esther, voilà. Le livre d'Esther, on se situe entre la fin du chapitre 6 et le début du chapitre 7. Donc, et après, donc, un deuxième retour d'exil sous la direction d'Esdras. Et c'est donc toute la fin du livre d'Esdras, là, qui est mentionné. Et puis, il y a après, plus tard, un troisième retour d'exil avec Néhémie. C'est ce qui est raconté dans le livre de Néhémie. Donc, en fait, il y a eu 3 phases de retour de l'exil. Donc, les peuples étaient encouragés à adorer leur Dieu. Et Esdras a été envoyé à Jérusalem pour cela, pour que le peuple juif qui était revenu soit vraiment instruit de la bonne manière dans leur religion. C'est ce qu'on peut lire dans les motivations qu'on voit au chapitre 7, au verset 8. Non, c'est pas ça. Enfin, vous le verrez, dans la lettre d'Ataxerxès à Esdras, les motivations qui ont poussé Ataxerxès à envoyer Esdras en Judée. Donc ce rouleau Esdras-Néhémie, il couvre la période du retour de l'exil en 538 jusque vers 430. C'est à la date, a priori, il aurait été écrit. Donc 430 ans avant Jésus-Christ. Il reprend l'histoire là où le livre des chroniques s'était arrêté. Si vous regardez les derniers versets du livre des chroniques, ce sont exactement les mêmes versets que le début du livre d'Esdras. Donc on voit qu'il y a une continuité dans l'histoire qui mentionne l'édit de Cyrus. Et puis donc il ne couvre pas toute l'histoire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il se consacre sur 2 événements dans cette période. Le premier événement, c'est le retour de l'exil sous la direction de Zorobabel et de Josué qui était grand prêtre, et la reconstruction du temple avec un certain nombre d'histoires qui arrivent. Et dans la deuxième partie du livre, un deuxième retour d'exil sous la conduite d'Esdras avec la mission d'Esdras qui était chargée par l'empereur de veiller à l'application de la loi divine en Juda. Il est intéressant aussi de noter que les prophètes Agée et Zacharie, donc qui sont dans les derniers prophètes de la Bible, les 3 derniers, c'est Sophonie, Agé, ça fait quatre derniers, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Donc, Agé et Zacharie, Malachi sont aussi des prophètes de la même période. Agé et Zacharie, leurs prophéties, ils les ont données durant la période de reconstruction du temple. Dieu a appelé Agé d'ailleurs, et ils sont tous les deux mentionnés dans le livre d'Esdras. Donc, si vous avez aussi le temps, c'est bien de pouvoir lire les prophéties d'Agé qui avaient été vraiment envoyées par l'Éternel pour redonner l'énergie, le zèle pour la construction, la reprise de la reconstruction du temple. Agé, Zacharie et Malachi, lui par contre, il a eu un ministère qui a démarré un petit peu plus tard. C'est pour ça aussi qu'on l'a placé à la fin des livres prophétiques de l'Ancien Testament. De quoi est constitué le livre d'Esdras ? Des choses intéressantes, des choses moins passionnantes. Vous allez tomber sur des listes de gens, de personnes qui sont revenus, des énumérations, par tribu, tant de personnes, par tribu, fils d'eux, etc. Pour nous aujourd'hui, ça nous barbe peut-être de lire ça, mais pour eux, c'était vraiment quelque chose d'important, parce que ça veut dire que l'histoire qui est en train d'être racontée là, dans le livre d'Esdras, c'est une histoire qui s'ancre dans la vraie histoire, dans la réalité d'un peuple. Des gens qui ont un passé, un héritage, qui sont descendants d'eux et qui se réclament de cette identité non seulement familiale, mais aussi spirituelle. Il y a aussi des lettres d'empereur entre l'empereur et certains gouverneurs ou des lettres adressées à Esdras. Ce sont des lettres officielles. Et puis il y a ensuite des histoires qui sont tirées de la vie d'Esdras et puis dans le livre de Néhémie, de la vie de Néhémie. Je voudrais juste énumérer certains nombres de thèmes qui sont abordés dans ce livre. C'est un livre qui nous parle de Dieu, dans un premier temps. Et Dieu est présenté, bien sûr, comme le Dieu d'Israël, mais il est aussi présenté, et ça c'est quelque chose de nouveau, ou peut-être avec une insistance particulière, comme étant le Dieu du ciel et de la terre. Donc non plus seulement comme étant le Dieu d'une nation, mais étant le Dieu souverain sur toutes les nations de la terre. Et je pense que les Juifs, pour un Juif présenter Dieu, non pas comme étant mon Dieu, mais étant comme le Dieu aussi des autres nations, c'est un changement qui est important de souligner dans l'approche des Juifs et de la façon dont ils conçoivent qui est Dieu. Alors Dieu est présenté, évidemment, on va le voir, Dieu est souverain, et c'est un Dieu qui agit. Dieu tient ses promesses, Dieu ramène son peuple sur la terre de Juda. Il l'avait promis, autant il avait annoncé la déportation parce que le peuple ne revenait pas à lui, autant il avait aussi annoncé le retour du peuple en Juda. Et là, on voit dans ce livre d'Esdras la réalisation de cette promesse. Et vous verrez donc dans votre lecture les différentes manières d'agir de Dieu. Il est écrit à plusieurs reprises que Dieu agit en faveur de ceux qui se confient en lui. Vous verrez que Dieu agit dans le cœur des personnes. C'est intéressant de voir. Non seulement ceux de son peuple, pour les disposer à faire sa volonté, mais aussi dans le cœur de ceux qui ne sont pas juifs, pour également les disposer favorablement vis-à-vis des siens. Et ça, on le voit à plusieurs reprises. Dieu agit dans le cœur. L'action de Dieu dans ce livre d'Esdras concerne la restauration, le retour des juifs sur la terre de Judée. Donc la restauration est bien évidemment le thème principal de ce rouleau. Restauration de Jérusalem, tout d'abord, le premier retour d'exil avait pour but la reconstruction du temple, et le retour d'exil avec Néhémie avait pour but la restauration des murailles de la ville et le repeuplement de la ville. Mais le but n'était pas que Jérusalem redevienne une force politique, mais qu'elle redevienne la ville sainte, la ville où Dieu était présent. Donc c'était au niveau cultuel surtout que Jérusalem avait besoin d'être reconstruite. C'est pour ça qu'ils ont commencé par l'autel, il y a eu ensuite la reconstruction du temple, les murailles et le repeuplement. Jérusalem était, on le voit quand on étudie le livre de Jérémie, Jérusalem avait été un symbole très fort de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et la première chose que Dieu veut redonner à son peuple, c'est ce symbole-là. Il y a donc non seulement la restauration de Jérusalem, mais aussi la restauration d'un peuple. Parce que pendant 70 ans, voilà, si on parlait du peuple juif, on ne savait pas quoi dire de ce peuple. Il était dispersé. Il n'existait plus en tant que nation. Et pourtant, c'était le peuple choisi par Dieu. Le peuple que Dieu s'était choisi. Le peuple mis à part. Le peuple saint. Il avait reçu la loi. Il avait été appelé à être quelqu'un, un peuple à part au milieu des nations. Et Dieu veut redonner ce rôle-là au peuple juif. Mais ça sera sûrement sous une autre forme. Et vous le verrez dans la deuxième partie du livre d'Esdras, le souci, on le voit dans le texte que j'ai lu, le deuxième verset, le verset clé, que le problème lié au fait que les hommes avaient épousé des femmes étrangères, il était d'une importance fondamentale de ne pas se mélanger, parce que c'était un peuple à part. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous choque, parce que le brassage des cultures et tout ça, c'est quelque chose... Voilà, il n'y a plus cette même vision. Mais à l'époque, il devait représenter le peuple de Dieu, il devait rester ce peuple de Dieu et qui devait être lumière au milieu des nations. D'où la nécessité de ne pas se marier avec des personnes d'un peuple étranger. Et puis, vous le verrez également, il y a... De par la mission d'Esdras, c'était d'enseigner la loi, les règles cultuelles, pour que le peuple observe la loi donnée à Moïse, à la fois donc au niveau cultuel, mais aussi au niveau social. Ce n'est plus un grand peuple, c'est un reste, c'est un petit groupe qui revient, et on voit que vous le verrez, on perçoit dans ce nouveau peuple de Dieu une transformation par rapport à l'histoire qu'on peut voir avant l'exil. Une transformation profonde, premièrement déjà par le fait que ce ne soit plus qu'un reste et que ce ne soit plus une nation. Donc, c'est le grand thème principal, c'est la restauration. Et on voit que ensuite, un autre thème dans ce livre, c'est le thème de la piété, la façon dont, dans la relation à Dieu. Et on voit un changement par rapport à ce qu'il y avait avant. Et ce qui est important de noter, c'est que finalement, nous, on est l'Église qui est née 400 ans, 450 ans après, ou 500 ans après, elle est directement héritière de cette piété qui s'est développé à ce moment-là, que l'on voit dans la lecture et l'enseignement de la loi. Un point fondamental, Esdras, et vous le verrez aussi dans Néhémie, c'est ça, c'est la lecture et l'enseignement de la loi. C'est ce qu'on a fait ce matin, on a lu la parole de Dieu, et on prend le temps aussi, par la prédication, de l'enseigner. Donc les églises, nos églises aujourd'hui, sont directement héritières de cette piété qui est née là, à cette époque. Et c'est intéressant aussi de voir la prière dans le livre d'Esdras. Dans le livre de Néhémie également, mais dans le livre d'Esdras, c'est aussi intéressant de regarder un petit peu quelle est la place de la prière, avec ses différentes formes. Vous verrez différentes formes de prière, des requêtes, des prières de reconnaissance, des prières de louange, des prières de confession de péché, des prières d'engagement. Et on retrouve donc trois éléments qui sont aussi importants pour nous aujourd'hui. C'est le culte, l'autel du temple qui est restauré, l'importance nous de nos rencontres le dimanche matin, l'importance de la parole de Dieu et l'importance de la prière. Donc cette spiritualité qui est la nôtre aujourd'hui, elle a vraiment ses racines dans le ministère et le travail d'Esdras, et puis évidemment voulu par Dieu à cette époque-là. Par rapport à la prière, il y a aussi une réflexion intéressante entre le lien entre prière et action. Marie-Pierre a parlé tout à l'heure de prendre du temps avec Dieu. Quand on a beaucoup de choses à faire, ça permet aussi, en relevant les yeux vers le Seigneur, de mieux faire les choses et peut-être d'en faire plus que si on était pris par notre propre stress et on devient pas efficace, parce qu'on laisse Dieu agir. On retrouve aussi un lien fort dans l'action, la relation avec la prière, je vous laisse le découvrir. La prière dans l'action et l'interaction entre prière et action. C'est un livre important. C'était un livre important pour les Juifs de l'époque, quand ils le lisaient, parce que c'est le livre qui parle du retour des Juifs en Israël, du fait que Dieu tienne ses promesses. C'était un signe de la fidélité et de la grâce de Dieu. Le retour d'exil, il faut se rendre compte que c'est un... Dans l'histoire du peuple juif, c'est un événement aussi important que la sortie d'Égypte, que l'Exode. Et on voit, et je l'ai dit et je le redis, qu'Israël a changé. Donc on peut dire qu'il y a vraiment un avant et un après l'exil. Et une des choses frappantes qui a changé, c'est qu'à partir du retour d'exil, on n'entend plus parler du tout d'idolâtrie. Les cultes de Baal, Astarté, tout ça. C'est terminé. Ils ont été vaccinés. Ce qui avait causé leur perte, finalement le but de Dieu a été atteint. C'était ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'était pas de les punir parce qu'ils étaient méchants. Le but de Dieu, c'était de les faire revenir et qu'ils abandonnent cette idolâtrie. Autant le séjour en Égypte a transformé une famille de 70 personnes en un peuple, autant l'exil à Babylone a transformé un royaume en un petit groupe, mais qui a cette caractéristique, je l'ai dit tout à l'heure, de piété dont nos églises aujourd'hui sont héritières. Et c'est vraiment donc quelque chose d'important. Et puis tout comme Moïse et Élie ont joué un rôle fondamental à des instants clés de l'histoire du peuple de Dieu, Esdras, et je l'ai dit aussi, le père d'un judaïsme qui émerge à cette époque-là, où à partir du 5e siècle. Et c'est intéressant qu'on voit apparaître dans ce livre le judaïsme dans lequel va vivre Jésus. Le judaïsme dans lequel va naître le Messie, va venir le Sauveur, 400 ans plus tard. Tout d'abord, juste deux exemples, l'importance de la prêtrise. Ce n'est plus le roi qui a de l'importance. On parle très peu du gouverneur, mais là, c'est Esdras qui joue un rôle fondamental. Et à l'époque de Jésus, on connaît le rôle important qu'a eu le Sanhédrin, qui était une instance religieuse. C'est le Sanhédrin qui a demandé à ce que Jésus soit mis à mort. L'importance de la prêtrise. Un deuxième aspect qu'on peut voir dès le livre d'Esdras, c'est ce désir de pureté rituelle qui va aboutir à l'époque de Jésus à tout le mouvement des pharisiens qui avaient décrété des lois tellement précises, qui étaient d'ailleurs devenues une piété légaliste et contre laquelle Jésus s'est battu. Et puis pour finir, le livre d'Esdras parle d'une restauration d'un peuple, Mais vous le verrez, le livre d'Esdras, il se termine brutalement par une... Il n'y a pas tellement de conclusions. Et ça peut nous amener à réfléchir en disant, voilà, Dieu a restauré ce peuple, mais il manque encore quelque chose. C'est ce que Jésus va accomplir sur la croix, pour que chaque individu puisse être restauré en profondeur et radicalement, libéré de l'esclavage du péché. Et donc, voilà, je vous encourage donc à lire ce livre d'Esdras dans les semaines qui viennent. On a un mois pour le lire. Je vais vous distribuer les petits papiers qui retracent les grandes lignes de ce que je viens de dire. Si vous avez le temps donc de lire aussi les prophètes Agée et Zacharie, et puis donc de penser à ces différentes thématiques que j'ai évoquées, comment Dieu est présenté, qui est Dieu, son œuvre de restauration, et aussi toute la place de la piété, la prière, l'importance de la parole de Dieu aussi, qu'on a rappelé ce matin. Et le partage donc se fera le 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril.